Bonjour à tous.
Bonjour.
Aujourd'hui, Micro Standard vient vous apporter de bonnes ondes, celles de Radio Nord-Bretagne, qui vous permettent d'écouter donc cette émission, mais aussi celle de nos micros. Micro-ondes, merci pour le jeu de mots, Michel.
Mais de rien, c'est gratuit, c'est complètement offert.
De belles ondes culinaires qui, on l'espère, vont vous faire saliver tout au long de cette petite heure à passer ensemble, en compagnie de nos chroniqueurs. La thématique, la bonne tambouille.
Ah, la bonne tambouille, et celle du tempo aussi. Hein.
Celle du tempo, la bonne cuisine, alors, à vos couteaux, à vos fourneaux. On espère vous mettre l'eau à la bouche avec notre équipe de micro-standards.
Moi, j'ai faim, moi, déjà.
Moi, je préfère le tourteau. Bonjour à tous, vous les chroniqueurs. Thierry.
Bonjour.
Alors, salut, Thierry.
Bon, bah, moi, je vais vous parler du farce d'Oilette de Ouessant.
Bonjour Denis, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ?
Bonjour, moi je vous réserve une petite battle avec Géraldine au sujet d'un plateau de fruits de mer.
Nous continuerons donc avec Mickaël qui nous parlera
de la cuisine aux algues qui arrive de plus en plus dans nos assiettes.
Ça va être très intéressant. On a donc la chance tout de même aujourd'hui d'enregistrer au restaurant Le Tempo, ici sur le port de Morlaix.
Un grand merci à eux.
Oui, lieu relooké. On travaille donc aujourd'hui dans une atmosphère très agréable. Donc, nous retrouverons Magno,
ouais, tout à l'heure. Magno est certainement Amaury. Et peut-être Eric aussi, hein, parce qu'ils se relayent tous les trois. Quand il y a de l'affluence, ils sont là tous les trois. On verra ça tout à l'heure, mais en tout cas, on aura bien évidemment quelqu'un du Tempo.
Avant d'entendre Thierry nous parler du farce Ouellette, une petite pensée pour Gilles et Bernard, les absents du jour.
Alors... Allez, la première grosse rubrique, aïe aïe aïe, importante. Là, on va voyager. Il nous envoie où, Thierry, dis-moi ?
À Ouessant, hein, avec la cuisine traditionnelle, hein, pas, un plat très réputé, n'est-ce pas, Thierry ?
Tout à fait, le farce Ouellette de Ouessant. Alors, j'ai pas encore pris le bateau, mais ça va peut-être venir.
je vais vous parler toi, du... Hein.
Ah oui, vous êtes les bienvenus sur l'île, il n'y a pas de problème. Si vous voulez un guide de choix, je suis partant. Donc, j'ai vécu pendant 8 ans sur Ouessant et c'est là que j'ai découvert un mets de choix et un mets très recherché par les Bretons et par les gens qui connaissent. C'est le farce d'Oilette, c'est-à-dire le farce qui est cuit dans les mottes. Soit sous la terre, soit dans des cheminées qui sont en fait prévues rien que pour ça. Alors, donc en fait, tout d'abord, il faut d'abord aller chercher les mottes de tourbe sur la lande de Ouessantine.
Ah, sur les dunes.
Sur les dunes.
Mmh. Par exemple aussi.
Sur les dunes de l'île, oui.
Je crois que c'est parce qu'il n'y a pas de bois, il n'y a pas d'arbre en fait.
Il n'y a pas d'arbre à Ouessant, non. Il n'y a qu'un seul arbre et je pense que je me suis pris dans la gueule lors de l'équitation. Donc,
c'est faux.
C'est vrai. En plus, pendant mes 8 ans que j'ai passé là-bas, j'ai fait un peu d'équitation, mais bon, ça c'est un aparté à part. Et le seul arbre de la...
C'était après ou avant
le
seul
arbre
de
l'apéro.
Le seul arbre
ou avant ou après l'apéro.
Je me rappelle, c'était un cheval marron qui avait du jus. La seule branche qui existait, je me la suis pris en pleine figure. Voilà.
Et ton farce Ouellette,
bon, de quoi est-ce fait ?
Fais-nous rêver.
Allez. Renaud à nos moutons. Le farce Ouellette, alors c'est une tradition ouessantine qui se perpétue de famille en famille sur l'île. Et donc il y a 3 heures de cuisson. Alors ça inclut en fait le farce Ouellette. Donc il y a de la farine, il y a des œufs. Il y a du gras de cochon, il y a des raisins secs, il y a des pruneaux, et tout ça, ça forme un tout qu'on met dans un chaudron, ouais, une sorte de chaudron, un plat légèrement concave en bas en fonte, et ça cuit pendant 3 heures à l'étouffer, donc soit sous les mottes directement dans la terre. Soit donc dans des cheminées qui sont spécialement prévues pour, qu'on peut trouver, qui sont peintes souvent en bleu et en blanc sur l'île, dans les cours des maisons. Et donc au bout de trois heures de cuisson, on démoule le farce. Et alors là, c'est l'extase parce que tout est caramélisé à l'intérieur. C'est-à-dire que le gras de cochon s'est cristallisé en caramel.
Donc, si je comprends bien, c'est un plat de résistance.
C'est un plat de résistance, oui. C'est un plat de résistance.
Ça ressemble un petit peu, si je compare, au kick à farce.
Ah non, ça n'a rien à voir.
Je me fais botter en touche, éjecté d'Ouessant, là, direct.
Ah non, d'accord. Rien à voir. Rien à voir. En fait, c'est comme un... On a l'impression que c'est un gâteau qui vient d'il y a deux siècles. Mais en fait, c'est... Faut y goûter, quoi.
Quel goût ça a ?
Alors, ça a un goût légèrement fumé, grâce aux mottes de terre.
Alors, les mottes de terre qui servent de combustible.
Servent de combustible, évidemment, bien sûr, parce que c'est cuit à l'étouffée. Hein. Et donc, la tourbe qui est utilisée donc pour la motte, quoi, en fait, qui est utilisée pour cuire le phare, elle donne son goût au phare aussi. En fait, il y a donc un léger goût fumé et aromatisé à la tourbe, quoi. Comme le whisky à la tourbe, c'est pareil. Ça donne un goût particulier, vraiment spécifique, quoi.
Que tu n'as jamais goûté par ailleurs sur un autre plat.
Nulle part ailleurs, jamais. Comme dirait Gildas.
et comment on fait pour avoir la recette alors ?
Alors la recette, elle
si t'es pas doué, tu l'auras pas.
Il y a une recette sur Internet, mais à mon avis, la recette sur Internet, c'est pas la véritable.
La main ouessantine pour le faire de toute façon.
Ah ouais. Bah oui.
Rien ne vaut d'avoir des amis d'Ouessant et donc de se faire transmettre la recette par des ouessantins qui sont expérimentés, et qui ont donc la recette originale, quoi. Mais il se peut qu'il y ait aussi des variantes au niveau de différentes familles de ouessants qui rajoutent des pruneaux, qui enlèvent les pruneaux, qui enlèvent les raisins, qui rajoutent autre chose.
Comme dans le phare breton.
C'est un petit peu comme un phare breton, mais c'est un phare plus épais, quoi. Ça fait à peu près 20 cm de haut. Et au fond du plat. Tout est caramélisé grâce au lard du cochon. Hein, je vous dis, il faut avoir de bonnes dents pour croquer là-dedans.
Si je comprends bien, Thierry, c'est le genre de plat qu'on peut pas décider de manger 2 heures avant. Il faut vraiment de la préparation.
Ah non. D'ailleurs, les mottes, il faut les faire sécher 3-4 jours à l'avance. C'est pas à 11h30 qu'on décide. Oh, tiens, j'ai mangé un farzolette à midi, quoi.
Ah, je pense bien.
Est-ce qu'il y a un restaurant qui propose ça ou est-ce que il faut juste on peut le déguster dans une famille ?
Il n'y a pas de restaurant pour ça. Alors moi, j'ai goûté ça lors de la kermesse de Sainte-Anne à Ouessant. C'est un établissement privé. Et donc la kermesse, c'était des jeux de fête foraine et tout ça.
Et pour le coup, moi Thierry, tu vois, je connais pas le farzolette, mais j'ai eu l'occasion de goûter au ragoût dans les mottes. Est-ce que tu connais ?
Je connais, mais j'ai pas goûté encore. Mais je me suis documenté un petit peu. Et
plat d'Ouessant aussi, hein, le ragoût dans les mottes.
Typiquement, ouais, alors, tradition culinaire. Ouais.
Cyril Lignac s'est même intéressé au plat ancestral ouessantin qui est le ragoût dans les mottes. Donc en fait c'est le même mode de cuisson que le farzolette, mais c'est avec de l'agneau, des carottes, des pommes de terre, des oignons, des échalotes, et c'est le même mode de cuisson avec des mottes, mais là ça dure 5 heures de cuisson, alors 2 heures en plus que le far.
Tu le fais la veille.
Voilà. Et toujours dans une cocotte en fonte, un peu plus grande, bien sûr, pour mettre toute la viande. Alors, sur l'île, ils abattent directement leur mouton directement sur l'île. Ils l'égorgent et tout. Ils récupèrent la viande.
Et il en parlerait pendant des heures. Hein, ouais. T'es tellement fan de ces produits-là. T'as quand même eu cette chance,
Thierry,
de vivre à Ouessant. Mais arrête de nous mettre l'eau à la bouche. Là.
Ouais. Et après, c'est la sieste dans les mottes.
Pas mal ça. Oh, bien
la
vu.
Sieste dans les mottes.
J'aime beaucoup celle-là. En écoutant une petite chanson de Kerlouan.
Ah oui.
Faire la sieste.
C'est une chanson qui est de ma voisine, parce que je suis nouvellement arrivé sur Kerlouan. Et j'ai découvert ça par hasard et je vais vous faire découvrir, donc c'est Suzanne de Kerlouan.
Lorsque je pars avec mon chien, que je change de coin. J'ai ma guitare et l'air de rien. Je chante un refrain. La rue est ma seule maison. Par toutes les saisons, je ne suis pas que vagabond. J'ai des émotions. Dans ma tête il y a des étoiles. Et mes rêves sont tout à fait banals. Malgré tout ça, je suis marginal. Et je chante toute la journée avec mon compagnon devant des personnes émerveillées qui apprécient ou non. Et je chante juste côté des bars et des cafés, c'est ma consolation. Ah, ah, ah. La 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 la. Ah, 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 ah. Mon chien et moi, on se comprend. C'est mon confident. Il est pour moi comme un parent qui me défend. Je ne fais pas tellement confiance.
Alors moi c'est Denis, nous avons conçu une battle sur les fruits de mer et le plateau de fruits de mer avec Géraldine. Je vais tout d'abord vous parler des araignées, les araignées de Noël. Alors c'est un peu spécial chez nous. En 2016, donc le 24 décembre, la veille de Noël, je suis allé, donc comme c'était un samedi, sur le marché de Morlaix, acheter des araignées avec un pêcheur que je connais depuis très longtemps et qui a toujours de belles araignées et de beaux tourteaux. Donc je suis allé avec mon panier sur le petit marché de Morlaix à 8h du matin. Il faut y aller de bonne heure parce que si on ne va pas de bonne heure, on n'arrive pas à en avoir. Parce qu'au bout d'un certain temps, il n'y en a plus, c'est ça le problème. Ça a tellement de succès. Donc j'ai pris mon panier, j'ai pris mes araignées et puis donc je suis rentré à la maison et j'ai pris une grande marmite d'eau et j'ai donc fait bouillir l'eau. Et une fois que c'était en ébullition, j'ai tapé sur le cœur des araignées et se sont recroquevillées et je les ai ébouillantées. Ça vous paraît peut-être un peu cruel, mais c'est barbare. Ouais.
C'est barbare.
Et ensuite, donc, je les ai mises au frigo une fois refroidies. Et ensuite, nous sommes allés à la veillée de Noël. Alors, ce jour-là, c'était à 18h15, donc à Pleyvert-Christ. Et en revenant, nous avons donc dégusté nos araignées.
Oh, ben moi, tu sais, Denis, je préfère de loin les tourteaux. Oui, tout à fait. Je trouve que la chair.
Moi, je les aime aussi.
Fine.
J'aime les grosses pattes des tourteaux, mais il faut qu'ils fassent au moins 3,5 kg le tourteau.
Oh, ben dis donc, t'as des goûts luxe. T'as des goûts luxe. Mais oui. En même temps, moi, le tourteau de préférence femelle, en période de mue. Et figurez-vous que je mange même les carottes avec une bonne mayonnaise maison.
Ah oui, c'est pas avec une vinaigrette aux échalotes.
Parfois, certains le font, notamment les carottes. Mais moi, je préfère vraiment le tourteau à l'araignée.
Oui, très bien. Nous pouvons peut-être parler maintenant de la pêche aux palourdes et aux coques. Alors,
bien.
J'ai mon petit coin à Pouezoc, mais que je terrai.
On ne révèle pas les
on
coins.
On ne révèle pas les coins.
Là, on loupe quelque chose.
On loupe quelque chose.
Il vous faut un râteau à trois doigts de la légalité, parce qu'il y a la dimension à respecter et le râteau est à respecter aussi. C'est trois doigts au maximum.
C'est interdit, le râteau.
C'est interdit, le râteau.
Ouais, c'est interdit.
Comment tu fais, alors?
Je vais te dénoncer. T'habites où?
Je ne vais pas donner mon adresse, les gendarmes vont venir me voir.
Hop, hop, hop. Attention, je vais te crever les nœuds la prochaine fois que je te trouve sur Pouezoc. Oui, toi, tu pêches du coup les coques et les palourdes.
Ah oui, je trouve ça délicieux, les coques et les palourdes. Avec mon râteau, je gratte bêtement un peu parce que. Mais certains pêchent au trou, je crois.
Moi, je pêche au trou et. Ah, oui. Mais tu dois pêcher que des palourdes d'élevage, Denis. Hein.
Que des palourdes d'élevage.
Voilà, c'est presque pas une insulte,
mais presque.
La vraie palourde, elle est striée, elle a la couleur du sol dans lequel elle évolue. Tu vois, plutôt jaune
sont,
dans le sable.
Striées, mais je pensais pas.
Oui, mais elles sont noires, les palourdes d'élevage. Bref, le râteau interdit.
Bon, très bien. Et les coques, alors les coques, je peux dire que c'est à Lokirek. Tout le monde connaît la grande baie de Lokirek où il y a beaucoup de coques.
Moi, personnellement, je préfère, tu vois, pêcher de loin la praire. Je trouve que la chair est beaucoup plus fine.
Et comment on pêche à faire?
Eh ben, d'ailleurs, c'est dans la vase. Les coins, je les garde pour moi, évidemment. Et moi, je les pêche à la pioche.
Ah bon ? Vous avez une force herculéenne.
Oui, c'est ça. Et c'est vrai que ce que j'aime le plus, c'est au four avec un petit beurre persillé ou cru tout simplement avec échalote vinaigre.
Ah oui, oui. Ça fait penser à une voisine de camping à Carven, à Plougasnou, qui pêchait la palourde, qui les ouvrait, qui mettait du beurre persillé dessus et qui les mettait au four aussi. Et ensuite, elle, comme elle était parisienne, elle en faisait un stock dans son congélateur. C'était son plaisir pendant des années de venir de Paris à Plougasnou chercher des palourdes.
Ça, je comprends. Ça, je comprends très bien. Par contre, tu vois, ce que j'aime beaucoup pêcher, ce sont les crevettes roses.
Ah, les crevettes roses. Les crevettes roses, moi j'ai les crevettes grises plutôt. Les crevettes grises, je les pêche à Pouguerneau. Alors, j'ai un copain.
Ils donnent tous les coins.
Ah oui, mais Pouguerneau, c'est grand, il y a beaucoup de baies.
Ouais,
beaucoup de
ouais, c'est vrai.
Pour les trouver, il faut déjà y aller. Hein.
C'est vrai.
Pas loin de Saint-Michel.
Mais là, il faut un bon avenot. Alors qu'il faut un avenot, et donc, on dit qu'elles sont en dessous des algues. Là, il faut déjà pas mal de force, parce qu'avec la force de l'eau, la résistance de l'eau, il faut bien tirer sur l'avenot. Et une fois, j'avais pêché des bigorneaux. Il y avait des algues marrons très longues, de 10 mètres de long presque.
Du corlet, sous le corlet.
Et donc, il y avait des bigorneaux dessus. J'ai ramassé une quantité phénoménale de bigorneaux et très peu de crevettes.
Rempli le seau de 5 kilos direct. J'apprécie moyennement, par contre, les gambas. Je ne sais pas ce que vous en pensez autour de la table.
Les gambas, je ne pense pas qu'on en trouve...
Bah, on a la mayonnaise.
On a un peu de mal à les trouver.
Non, elles viennent de Cuba, principalement.
Oui, sur les plateaux de fruits de mer, on en trouve. Alors, en tout cas, attention, elles sont souvent nourries de farine animale. Hein.
Ah d'accord, mais moi, je pensais que ça venait des Antilles.
Ce qui leur donne leur couleur.
Oui, et leur goût.
Bien. Donc c'est le petit truc à éviter finalement ça sur le plateau de fruits de mer.
Oui.
Là il y a battle d'accord des deux côtés quoi. Vous voulez pas de gambas.
Non, on ne se dispute pas tout le temps.
Il y a le top et le top, c'est le homard.
Le homard, oui.
De pêche d'à 15 à 50 mètres de profondeur.
C'est vrai?
Ah oui, c'est le top du top, mais il y a le homard à l'américaine et le homard à l'armoricaine.
Et c'est quoi la différence entre le homard à l'américaine et à l'armoricaine?
Le homard à l'américaine, c'est un homard qui est pêché en Amérique. On en trouve dans les grandes surfaces. Et le homard à l'armoricaine, c'est un homard qui est revenu dans les légumes.
C'est trop bon.
Qui est revenu dans les petits légumes et dans le vin blanc et que l'on déguste ensuite. Quoi.
Mais rien ne vaut au final, plaisir. Malgré tout, une bonne langouste pêchée au large de nos côtes, même si on sait qu'il y en a très
mais
peu.
Mais moi, j'en ai pas
et qu'elle
trouvé,
reste très très chère.
Ça reste très très cher, oui. Ah, les huîtres. Parlons de Casanova.
si tu veux.
Une petite histoire de Casanova, alors qui avait donc passé une soirée avec des amis, et puis donc, dragueur comme il était, il avait réussi à faire dégouler une huître sur le sein gauche de son ami et de sucer le sein.
Le moment coquin de l'émission.
Ce que je sais, ce que je sais en tout cas, l'huître creuse a remplacé l'huître plate dans les années 70 à cause d'un épizootie, une maladie sur l'huître plate. Et en fait, à cette époque-là, les ostréiculteurs ont importé une race japonaise, donc l'huître creuse qu'on consomme depuis les années 70 le plus naturellement du monde, élevé principalement donc ici en Finistère Nord, et qui sont amenés en Charente-Maritime, mis dans des bassins, pour leur apporter une couleur verte selon la mode en fait.
Mais il y avait eu un problème de maladie, je crois, avec les huîtres. Il y avait une mortalité d'un certain plus de 30%, je crois, pendant un moment. Les petites huîtres ne résistaient pas.
Maintenant, du coup, Denis, ton plat de fruits de mer idéal, tu l'agrémentes de quoi? Je pense au vin blanc, hein, personnellement.
Le vin blanc, c'est sur un petit sauvignon, peut-être, ou bien un petit muscadet, oui. La mayonnaise aussi, la vinaigrette aux échalotes. Mais je dirais aussi que le plateau de fruits de mer, on dit que ça nettoie à l'intérieur. C'est-à-dire que ce serait comme un médicament qui nettoierait l'intérieur de l'organisme. En plus, c'est une vitamine.
Oui, c'est très iodé. Mais pour le coup, ça, c'est sans parler de la mayonnaise et du vin blanc. Quoi.
Moi, je connais qui disent que ça nettoie, effectivement, mais c'est quand ils sont malades et qu'ils passent plusieurs heures après, ils se sentent nettoyés après leur plateau de fruits de mer.
C'est ce qui m'arrive, en fait. Et pour le coup, on n'oublie pas non plus le petit rince-doigt au citron sur le plat de fruits de mer traditionnel.
Oui, on n'oublie pas non plus. Oui, le demi tourteau, la demi araignée, les huîtres, les coques, les palourdes, les langoustines, les écrevisses. Ah, les écrevisses d'eau douce. Ah, c'est bon.
Ah
aussi.
Oui, c'est vrai.
Vous mettez
pas
de bulots.
Ne pas confondre avec les langoustines.
Ah non, pas confondre, c'est différent.
Et pour Michel, on ajoute quelques bulots,
oh,
mayonnaise.
C'est gentil, merci.
Aussi sur un plateau de fruits de mer traditionnel, quelques algues, accessoirement pour la déco, ce qui est important. Pour le coup, Michael, toi, tu vas remonter dans ses souvenirs d'enfance et nous parler des algues et des bienfaits des algues.
Oui, je me suis penché sur le sujet pas mal pour l'émission. Je vous propose déjà un petit historique de la cuisine aux algues à travers le monde. Sachez déjà que les algues sont les premiers végétaux qui sont apparus sur la planète. Elles faisaient déjà partie en fait de la cuisine chinoise dès le 6e siècle. La consommation d'algues est très répandue en Asie, surtout au Japon. Et elles entrent petit à petit dans la culture culinaire européenne, quoi. Alors, la France, avec la Bretagne, est une des régions les plus riches en algues au monde.
Je crois que c'est le secteur de Roscoff, non ? Qui est le plus riche à Roscoff. On trouve quasiment la diversité des algues maritimes, non, Michael ?
Oui, c'est vrai que Roscoff est réputé comme coin sur la région, oui. Alors moi, en fait, comme tu disais, Géraldine, j'ai des souvenirs d'enfance, oui, avec mon père, en fait, qui m'emmenait chercher avec lui du goémon pour fertiliser le jardin avant de passer le rotobateur, quoi.
Ah oui, là, on va vraiment dans les souvenirs. Ah ouais, excellent, très belle époque, ça.
C'est le secret de la pomme de terre de l'île de Bas.
C'est vrai.
C'est vrai.
Et vous alliez où alors, Michael ? Sur quelle plage ?
Moi, en fait, j'habite dans les Monts d'Arrée, donc on allait au bras de mer le plus proche, on se rendait au fou, quoi. On ramassait ça, et puis après, il fallait les pendre sur le jardin avant de retourner la terre pour enrichir la terre, quoi.
Hein, oui, c'est d'accord. Là, quoi. C'est un minéraux. Les algues.
Comment ?
Vous les rinciez, les algues ?
Ah non, du tout. Non.
Ah non. Non. C'est plein de sel.
Oui, mais peut-être
non,
justement.
On laisse pourrir l'algue. C'est-à-dire que l'algue se désagrège sur le terrain. On attend que l'algue se déshydrate, oui, et après on mélange. Oui, oui, oui.
Le premier port goémonier d'Europe est à la Nildutte, à côté du Conquet.
Il y a le musée des goémoniers aussi à Pouguerneau.
Et toi, Michael, tu avais une recette à nous délivrer ?
Oui, une petite recette. Bon, avant. Plutôt après vous avoir rapporté un petit peu les bienfaits des algues en fait en cuisine, donc ce sont à la fois des légumes et des condiments très bons pour la santé, quoi. Les algues sont très riches en protéines et en sels minéraux. Donc la recette, Géraldine.
La fameuse, j'attends avec impatience. Hein.
Une recette assez simple. Donc c'est la recette des gaufres de Dulce, D-U-L-S-E. Alors, les ingrédients pour 4 personnes, une tasse, soit 200 ml de farine d'épeautre, une demi-tasse, soit 100 ml de farine de châtaigne, une tasse, soit 200 ml de lait de soja, une cuillère à soupe d'huile de sésame, une cuillère à soupe de sirop, 2 cuillères à soupe de dulcé en poudre, 1 cuillère à soupe de raisin sec et du sel. Alors comment on procède ? On mélange tous ces ingrédients pour obtenir une pâte homogène. On laisse reposer 30 minutes à 1 heure. On fait cuire dans un gaufrier. Et vous pouvez manger les gaufres avec du sirop de riz ou des fruits cuits par exemple. Alors voilà, moi je trouvais intéressant dans cette émission sur la cuisine d'aborder la cuisine aux algues. Donc n'hésitez pas à innover en cuisine et essayez les algues.
Alors c'est vrai que nous on a de la chance en Bretagne, on peut aller les récolter nous-mêmes.
Et vous le faites d'ailleurs ?
Ouais.
Ça vous arrive ?
Ouais, moi ça
vous mangez des algues ?
Tous les jours.
C'est vrai ?
Ouais, tous les jours.
Bravo.
Ouais.
Les autres ?
Non. Ben, on en mange spécifiquement dans certains aliments qui contiennent des algues chimiques.
Gélatine,
tout ça.
Ouais, mais quand on parle d'algues, on dit de l'algue fraîche, hein, l'algue qui se consomme et qu'on voit. D'accord. Moi, il y a un truc que j'aime bien, c'est vraiment à l'apéro. On trouve aujourd'hui, on a plein de petites sociétés locales qui ramasse des algues et qui nous prépare soit des algues naturelles ou avec des petits condiments et compagnie. Alors un petit pain local, un pain de chez un bon boulanger là, passé légèrement au four avec des algues dessus, un petit tartare d'algues, c'est juste que du bonheur en bouche à l'heure de l'apéro.
Avec une bière bretonne, bien sûr.
Évidemment, évidemment.
Allez, sur ces bonnes paroles, une petite intermède musicale avec Clandestino de Manu Chao. Ah ben voilà, mais là c'est les choses sérieuses qui commencent. McNo qui nous envoie un petit café gourmand concocté par l'équipe du Tempo. Je vous rappelle qu'on est ici
beau,
en train d'enregistrer en direct. Merci McNo, on va te retrouver tout à l'heure ou Amaury ou Eric pour nous faire découvrir le Tempo. Café-restaurant, et donc on va parler avec eux. Restauration, bonne petite dégustation.
Merci
Géraldine, pendant qu'on déguste, qu'est-ce qu'on peut s'écouter, dis-moi. On a été faire une visite il y a quelque temps.
Hein. Oui, le sujet était tellement riche que j'ai omis de vous parler d'une interview de la Cantoche à Brest.
Ouais.
Nouveau concept, restaurant géré par Thierry Hébert. Hein, donc des types quand même très intéressants. Qui lutte contre le gaspillage, entre autres. Et aussi, donc, oui. Nos infirmières fétiches qui vont nous parler de l'atelier thérapeutique en cuisine, puisqu'elles suivent plusieurs patients. Un atelier intéressant et qui a différents buts.
toujours cuisine.
Cuisine.
On aime ça.
Et gestion du budget, entre autres.
Ouais, allez, on écoute la cantoche pendant ce temps-là. Bon appétit.
Alors, la cantoche, c'est quoi? C'est un restaurant donc solidaire, un restaurant qui est ouvert à tout le monde. Et on lutte contre le zéro gâchis. Et donc, ça nous permet de faire des tarifs à 2, 4 et 8 euros. On a ouvert la cantoche au mois de mars 2016. Et donc, on aura un an au mois de mars. La cantoche, ça fonctionne grâce à beaucoup de bénévoles. On est entre 60 et 70 bénévoles. On a un salarié en contrat aidé et aussi avec tous les commerces qui nous donnent donc des invendus. Sans eux, ben, on aurait du mal aussi à subvenir au repas puisque s'il fallait acheter toutes les matières premières, on n'aurait pas les moyens de le faire. Alors il y a une équipe logistique, il y a des bénévoles donc, qui vont récupérer donc, dans les grandes surfaces. Il y a des contrats qui sont signés donc, entre l'association et les grandes surfaces. Il y a des systèmes de ramasse qui sont mis en place pour certains magasins et d'autres, c'est les magasins qui nous appellent quand ils ont des invendus et on va chercher. Dans ce qu'on récupère, on a tout ce qu'il faut pour faire des repas équilibrés, largement. On arrive même à récupérer plus que l'on peut cuisiner. Mais rien n'est perdu puisqu'on redonne à d'autres associations. On essaye de jeter le moins possible.
Alors, le menu. En entrée, nous avons la rillette de porc, salade paysanne ou potage. Combien de salades paysannes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
On a des plannings qui sont faits mois par mois et en fait c'est le bénévole qui choisit s'il veut être en salle, s'il veut être en cuisine, s'il veut être en préparation cuisine. Il y a une équipe ménage aussi, donc voilà, c'est lui qui choisit où il veut aller.
Alors 2 euros monsieur, s'il vous plaît. Alors, là, comme d'habitude, on va voir ce qu'on peut vous trouver aujourd'hui. Voilà. Alors.
Alors le restaurant il est ouvert du mardi au vendredi tous les midis et le samedi soir. Il faut qu'on ait un pourcentage à 8 euros tous les jours et tous les mois de façon d'équilibrer les comptes parce que c'est si l'association continue et on va dire puisse se mettre dans d'autres villes et autres, et il faut ces repas à 8 euros puisque en fait les repas à 2 et 4 euros on aura du mal à payer toutes les charges qu'on a payées. Alors les gens aujourd'hui, quand ils viennent ici, ils viennent chercher un moment convivial donc autour d'une bonne assiette. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens de cuisiner chez eux, donc, ou alors qui sont seuls, qui n'ont pas envie de cuisiner non plus. Donc du coup, ils viennent ici chercher un repas chaud. Et surtout, c'est un moment de convivialité entre les autres personnes. Quoi. Et puis les bénévoles aussi, c'est bon, ils discutent. Voilà, c'est un moment de convivialité qu'ils viennent chercher. Alors, les nouveaux sont formés par les anciens, quoi. On va dire ça comme ça. En fait, c'est les anciens bénévoles qui brivent les nouveaux qui arrivent. Alors, on nous parle de la qualité des repas. C'est vrai qu'on nous dit toujours que les repas sont bien équilibrés, que c'est correct, que c'est bon. Donc, on est super contents.
Alors, éclair au café, salade de fruits, tarte aux myrtilles.
La population a bien réagi. On a eu du monde tout de suite. Par rapport aux autres restaurateurs, je connais quand même quelques restaurateurs dans le coin de Brest. Et ça se passe bien. Les gens nous disent, tu fais ce que nous, on ne peut pas faire au niveau des restaurations. Donc, c'est bien, quoi. Donc. Il y a eu beaucoup d'engouement, là il y en a encore beaucoup plus parce qu'il y en a un deuxième qui va bientôt ouvrir. Et la presse est beaucoup avec nous. Dès qu'on a besoin, je les appelle et on a des articles assez souvent. Ils sont surpris de la qualité, de l'accueil, de la qualité et surtout du lieu, quoi, parce qu'ils ne s'attendent pas à avoir un lieu comme ça. Donc ils sont vraiment agréablement surpris. Alors on a des habitués, on a des gens qui viennent pratiquement tous les jours, oui. Donc des habitués. Après on a d'autres personnes qui viennent une fois, deux fois par semaine. Voilà, mais bon, on a des gens réguliers. Ouais. Alors les fournisseurs, ils ont des avantages fiscaux bien sûr, puisque tous les ans je leur délivre donc un quitus fiscal et ça leur permet de déduire de leurs impôts les denrées qu'ils nous donnent.
Bon appétit.
Alors il est préférable de réserver puisque c'est vrai que maintenant on fait complet pratiquement tous les jours. On resserre encore quelques tables aussi en plus, mais il vaut mieux quand c'est des groupes, il vaut mieux réserver. On fait quelques événements, des gens nous demandent de faire des événements, donc on en fait. Et sinon, on fait un événement par mois, on a un groupe qui vient tous les mois, bénévolement, où on fait un repas. En général, c'est le samedi. Et cette soirée-là permet de financer un petit peu au niveau du loyer. Il reste forcément au niveau des repas, il reste toujours. Donc il y a une partie des repas que. Il y a une partie qu'on donne aux bénévoles. Hein. Les bénévoles qui veulent quelques trucs, des repas du midi, bon ben ils prennent. Hein. Parce que bon, on a des bénévoles aussi qui ont besoin d'être aidés. Et puis sinon le reste, on a mis en place avec la mairie donc un système donc de zéro gâchis aussi de ce côté-là, puisqu'on a des bennes, des conteneurs qui partent donc pour le compostage. Dans le Finistère, ouais, précurseur, et puis bon, je pense qu'en France aussi, quoi. Mais bon, là, on va s'agrandir, mais on va rester pour l'instant, je pense que ça va être une association qui va rester finistérienne dans l'immédiat. Quoi.
Bon alors la Cantoche, vous gardez quel souvenir de cette visite, de cette découverte avec Monsieur Hébert ?
C'était très agréable. Je trouve que le lieu est donc agréable. Ça fait vraiment resto pro, quoi. Donc, je trouvais ça professionnel et je trouvais le repas bon. C'était une bonne quantité. Dont on a été bien accueillis. Les gens étaient agréables autour de nous.
Eh ouais.
C'était très convivial. Il y avait beaucoup de choix entre le dessert, enfin le plat de... plutôt l'entrée, le plat, les desserts. Et les gens étaient très, très sympathiques. Il y avait une très belle ambiance. Et franchement, ouais, à conseiller.
Et sur fond de bruit de machine à café, on vient de finir l'interview de la Cantoche sur un bruit de machine à café. Et on se retrouve pour faire l'interview d'une partie de l'équipe du Tempo avec un bruit de machine à café derrière. Salut Macno.
Salut à tous.
On t'entend pas beaucoup. Hop.
Bonjour.
Bonjour.
Il est là. Voilà. Eh ben Magno, quel plaisir déjà d'être accueilli par toute l'équipe ici.
Non, mais c'est à nous que ça fait plaisir.
Le Tempo, pour raconter un petit peu l'histoire du Tempo, Magno, Amaury et Eric, vous, l'aventure Tempo, ça fait combien de temps ?
Alors, c'est une question un peu compliquée, puisque Eric est là, lui, depuis 88, mais il était avec d'autres associés. Ouais. Et donc, Amaury et moi, on l'a rejoint il y a 2 ans.
Il y a 2 ans, pourquoi avoir décidé de reprendre le Tempo avec Eric ?
Parce que la place se libérait.
Parce que la place se libérait ? Parce que
non, moi, ça fait longtemps que je travaille ici. Amaury a travaillé il y a quelques années. Il travaillait là plus un peu en freelance, un peu partout. Et je crois qu'il avait aussi un peu envie de se poser. Puis ça s'est présenté. Donc, on a sauté sur l'occasion.
Bon, les grandes particularités du Tempo, l'une des principales en tout cas, c'est son emplacement face à la Manu sur le port de Morlaix. C'est, si je regarde à l'horizon, à droite, à gauche, il n'y a que le Tempo.
Oui, on est un peu tout seul. Ça pose aussi des soucis parce que le centre de Morlaix est quand même un tout petit peu éloigné. Mais on est tranquille, il n'y a pas trop de bruit de voiture, on est bien exposé. Quand il y a du soleil, c'est merveilleux. Non, non, on est content.
Lieu mythique quand même parce qu'il s'en passe des choses. Là, il y a eu une réouverture parce que vous avez été fermé pendant 2 petits mois pour des travaux extérieurs et intérieurs aussi parce que vous avez rafraîchi, si on peut dire, l'établissement. Il s'est passé quoi là, la terrasse, elle est toute neuve.
Il s'est passé plein de choses. Ouais, ils nous ont refait une terrasse toute belle, toute propre. Ils nous ont refait des toilettes qui commençaient à en avoir besoin. Nous, on a refait l'étage et puis un petit peu de bricolage. Voilà, ils ont renforcé la structure du bâtiment. Plein de choses.
Ce qu'on appelle des mises aux normes, en fait.
Je pense que le propriétaire commençait à s'inquiéter, ouais.
Ah, bon.
Mais vous avez gardé l'âme du Tempo.
Eh ben oui, ma chère Géraldine, ce sont des choses qui arrivent.
Les aléas du direct.
Les aléas du direct. Malheureusement, un gros souci technique nous empêche de diffuser la suite de l'émission. Mais on va quand même continuer à parler du Tempo, ce café-restaurant de Morlaix, situé sur le port de Morlaix. Tout le monde connaît le Tempo ici, hein ?
Oui.
Bon, Magno, on est vraiment désolé. On est désolé auprès de toute l'équipe. Petit souvenir de cet enregistrement qu'on a fait au Tempo. C'était pile il y a une semaine. Vous en avez pensé quoi de ce lieu?
C'est un lieu magique de Morlaix parce qu'en fait, on peut faire des rencontres très intéressantes au niveau culture, au niveau musique, au niveau peinture, au niveau tout ça. Et donc, le Tempo, je crois que c'est un incontournable de Morlaix. Voilà.
Ouais, effectivement, il va s'en passer des choses. Il se passe tout le temps quelque chose. Il va y avoir Panorama qui va avoir lieu là-bas. Il va y avoir des concerts dans le cadre des panoramiques sur ce mois d'avril. Il va y avoir des émissions radio, d'autres émissions radio qui vont être enregistrées dans le cadre toujours du festival Panorama. Et il va y avoir les concerts de l'été parce que la belle saison arrive dans quelques jours, en tout cas, hein, Géraldine, on ira encore au Tempo, ça c'est évident.
Oui, et nous vous invitons tous à vous y rendre pour apprécier les bons petits plats faits maison, produits locaux, dans une atmosphère toujours aussi chic et intimiste.
Encore un grand merci à toute l'équipe de nous avoir accueillis. Et on avait de la chance en plus, on avait des amis touristes qui étaient là puisqu'il y avait des Allemands pendant l'enregistrement de l'émission.
Des Allemands qui nous ont pris en photo. On n'était pas peu fiers de vous le dire.
Du coup, Géraldine, la suite de cette émission un petit peu improvisée sur la fin, suite à nos petits problèmes techniques, qu'est-ce qui va se passer maintenant?
Katel et Karine vont nous parler donc d'un atelier thérapeutique basé sur la cuisine, un atelier qui a lieu ici sur l'hôpital de Morlaix et qu'elles animent une fois par semaine, me semble-t-il.
Tout à fait, oui. Qu'est-ce qu'on peut en dire? En fait, c'est un atelier qui a lieu tous les vendredis de 10h30 à 13h30. Un atelier ouvert à 4 personnes, plus 2 infirmières, en l'occurrence Karine et moi-même. Voilà.
C'est complètement sur le même principe que cet atelier radio, en fait.
Ouais,
plus ou moins. C'est pour des personnes qui sont chez elles, qui sont un petit peu en difficulté pour gérer leur menu, le budget.
Parfois aussi, souvent, enfin, en tout cas, on fait attention à tout ce qui est diététique pendant la réalisation du plat, en fait, parce que pour certains, c'est aussi lutter contre parfois une surcharge pondérale. Mm-hmm. Voilà, donc...
Et on peut faire de l'art aussi.
Tout à fait.
Donc, c'est un petit peu comme l'atelier radio, finalement. Et il y a le côté convivial aussi, qu'on essaie d'apporter.
Ça. Bon, ça se passe comment? Ça commence par des courses que vous faites tous ensemble?
Alors, on va faire nos courses tous ensemble vers 10h.
Ouais.
Je ne dirai pas où, parce que tout le monde va se rameuter. Donc, on a un budget de 20 euros pour 6 personnes. Ouais. Donc, on essaie de faire... c'est pas beaucoup, mais on y arrive très bien, finalement, en faisant une entrée, un plat de résistance, un dessert.
Par exemple, ne serait-ce que vendredi dernier, donc on avait comme menu des carottes râpées, carottes de sable, qu'on a râpées nous-mêmes, suivies d'une escalope de dinde farcie au fromage et au jambon, avec des haricots verts. Et ensuite, on s'est fait un petit crumble presque...
Un mixte entre crumble et un tiramisu.
Crumble tiramisu à la fraise de Plougastel.
Excellent.
Quel est le plus difficile pour les participants à cet atelier? C'est vrai que quand on est tout seul chez soi, c'est difficile de cuisiner. C'est de se remettre justement à la cuisine et de cuisiner pour soi tout seul. Ça n'a pas été évident, ça.
Ouais, c'est souvent ça, en fait. Et ça revient souvent pendant l'atelier, ce côté très convivial qu'on retrouve parce qu'on est en groupe, parce qu'on est tous motivés par les uns et les autres. Et une fois à la maison, la difficulté de s'y remettre pour soi... Et puis, pour beaucoup, la flemme un petit peu de cuisiner même des choses toutes simples. Et puis, c'est tellement plus facile ou d'ouvrir une boîte ou un plat préparé, micro-ondes. Et voilà. Et du coup, ce qu'on ramène, ce qui est bien dommage, c'est que bien souvent, cuisiner soi-même, ça revient beaucoup moins cher. C'est beaucoup plus diététique. C'est vraiment meilleur. Et tout en restant sur des choses très simples.
Est-ce que cet atelier redonne le goût aux personnes participantes?
Écoute, ne serait-ce que cette semaine, on a un jeune patient qui s'est mis à cuisiner et qui a, dimanche dernier, qui a réalisé un repas surprise pour ses parents.
Et il s'est remis au fourneau, il a embarqué son petit frère et ça a vraiment été un super moment avec le petit frère, mais aussi après l'échange avec les parents autour d'un repas qu'il avait réalisé. Et ça, suite à une idée qu'il a eue à l'atelier cuisine en disant « tiens, pourquoi je ne referais pas ça chez moi ?» Et là, ouais, on se dit que ça marche.
Bah oui, il y a un côté valorisant aussi.
Ouais. Et qui décide du menu ?
Le groupe.
Ensemble.
Et puis, on fait un petit peu aussi en fonction des promotions. Donc, quand on arrive devant le magasin, on se dit, tiens, il y a une promo sur les côtes de porc. Et ben voilà, on va faire des côtes de porc.
Suivant la saison, mais malgré, bien sûr, en respectant le budget, vous essayez de travailler, de valoriser les produits locaux. C'est possible, ça,
on
malgré le prix ?
On ne prend pas de l'ail de Chine, par exemple. On a vu ça vendredi dernier, hors de question. On essaie quand même de privilégier les produits locaux.
Oui, et parfois on essaye de partir dans l'exotisme aussi, en se disant, et pour montrer aussi que c'est possible de se refaire ça à la maison et que ça ne va pas forcément coûter plus cher parce que ça vient de loin ou parce que... Voilà, mais c'est vrai qu'on essaye de rester... Enfin, quelque chose qui va pouvoir à nouveau se réaliser à la maison, c'est-à-dire qu'il faut que ça reste assez simple, facile à réaliser et
bon.
Et bon, mais ça, on ne se pose pas de questions à chaque fois.
Bon. C'est toujours un succès.
Ouais.
Et du coup, ça se finit comment, cet atelier, en dégustation ?
On mange tous ensemble, on met une belle table. Enfin, on essaye en tout cas de... Voilà. Et puis, souvent, on passe pas mal de temps à table, finalement.
Ouais, c'est ça. On prend le temps de
manger. Ça devient un moment de convivialité, du coup, discussion, échange.
Ouais.
Et est-ce que vous avez des restes ?
Alors oui, des fois quand il y a des restes,
Emmène à la cantoche.
Non, même pas. On fait toujours. On se dit qu'il faut pas non plus gaspiller. Alors effectivement, quand il y a des restes, soit un des participants peut rapporter un petit reste à la maison. Enfin, c'est souvent comme ça. C'est-à-dire qu'après on repartage.
On dispatch.
Bien souvent, il n'y a pas de reste. Mais par exemple, vendredi dernier, c'est vrai qu'on a réussi à faire 12 verrines de notre dessert. Bon, pour 6, ça faisait quand même beaucoup. Mmh. Donc, effectivement, chacun peut repartir avec un petit
dessert.
Un petit bout de.
Pour le goûter, des fois.
Mais bon, en fait, ça se termine aussi quand même par la vaisselle.
Ah, bah oui.
Mais on essaye quand même de faire ça au fur et à mesure, justement, pour pas que ce soit la corvée qui, finalement, peut aussi donner la flemme dès le départ. Mmh. Donc, on essaye de gérer aussi tout ce qui est moins convivial, on va dire.
C'est compliqué, vous qui. Ça vous arrive d'être tout seul à la maison, de cuisiner tout seul ? C'est un moment qui est comment pour vous ? Convivial, difficile à vivre ? Vous savez, vous trouvez facilement quoi cuisiner ?
Oui, moi je cuisine facilement les pommes de terre, soit la purée ou les pommes de terre à l'eau ou des frites.
Et puis on sait que tu as ta maîtrise de plateau de fruits de mer.
Ah oui, ça c'est sûr, mais j'ai pas toujours les moyens de me payer tous les jours des fruits de mer. Mais j'ai un bon congélateur avec un bon beefsteak et une bonne côte d'atrême.
Moi c'est plutôt pique-nique quoi. Je prends un peu de ça, un peu de ci, un peu de sucré, un peu de salé. Et après quand c'est pour plusieurs personnes... Bah, c'est vraiment le bon gros repas et tout le monde apporte ce qu'il veut et c'est un mélange de couleurs et de saveurs.
Et version auberge espagnole.
Voilà, aussi après, ouais. Pourquoi pas.
Et les autres ?
Bah, c'est plutôt une charge pour moi, même si je n'ai pas l'esprit à cuisiner, mais enfin je m'efforce même à en faire pour tenir le coup, quoi.
Ton repas idéal, par exemple, un soir, c'est quoi ? Le repas parfait pour toi ?
C'est peut-être hors du pain pâté, je sais pas.
C'est déjà pas mal.
Oui, c'est se nourrir, quoi.
Le plus dur, c'est quoi ? C'est d'ouvrir la boîte de pâté ?
Oui, sans doute, oui.
C'est un bon client pour l'atelier cuisine.
Sans doute, ouais. Peut-être.
Je crois qu'il va falloir le débaucher, un atelier radio et un atelier cuisine imposé pour notre ami Bernard. Michael, toi, ça se passe comment ?
Cuisine en maximum un quart d'heure, quoi.
Par jour.
Bon, Michael, tu viens aussi.
Voilà, donc recrutement en plein cœur de cette émission pour l'atelier cuisine.
C'est un atelier qui a du succès.
D'accord, donc moi, je ne suis pas convié, c'est ça, quoi.
Non.
D'accord, ok.
Michel, alors, comment c'est la cuisine ?
C'est beaucoup de temps en cuisine. Moi, c'est beaucoup de temps en cuisine parce que j'aime particulièrement cuisiner. Et voilà, donc c'est un grand moment de convivialité que j'aime bien. J'aime bien entre un moment d'échange, de partage entre ma cuisine et moi. Voilà. Mais parce que j'ai la possibilité aussi et la chance de faire à manger à plusieurs personnes.
Mais on n'a pas parlé du lieu de la cuisine, le lieu cuisine.
Ah, le lieu est super important. Puisque je parlais de ma cuisine il y a quelques instants, moi j'ai refait ma cuisine il y a 2 ans, et le fait d'avoir refait une cuisine, d'avoir éclairci ce lieu, d'avoir redonné vie à ce lieu, ça j'ai encore envie plus de envie de cuisiner.
Ça te donne envie de cuisiner. Voilà.
Et la cuisine, c'est le lieu préféré des Français.
Il s'en passe des choses des fois dans les cuisines. Voilà, c'est ça que tu voulais dire, Géraldine, hein? Ah bon, ça sent le vécu, Géraldine.
Oui, alors Sylvie, tu voulais profiter de cette émission sur la cuisine pour nous parler de quelqu'un qui te tenait à cœur.
Oui, c'est effectivement très important pour nous de faire un petit mot d'au revoir, d'adieu au docteur Emery, qui est un des fondateurs des ateliers thérapeutiques artistiques et qui nous a quittés brutalement au mois de décembre. Nous souhaitions effectivement de parler de lui, surtout pour cette émission de cuisine, qui est, je pense que M. Emery était quelqu'un d'assez bon vivant, qui aimait manger. Et on s'est dit que c'était peut-être important que nous lui dédions cette émission pour lui dire au revoir et pour lui dire aussi tout ce qu'il a pu apporter aux ateliers et aux participants de ces ateliers. Voilà.
Particulièrement, M. Emery, par nos soins quotidiens dans des cadres qui nous ont plu, comme le centre de soins de Rosascourt à Tolé, près de l'Occitanie, puis à Pouconvin. Nous étions accueillis dans un beau cadre et confortable en faisant des activités du dernier cri qui vous permettront de créer plus tard l'association Standard. Merci, M. Emery.
Nous espérons que cette émission aura su vous faire saliver. Vous pourrez nous réécouter tous les premiers samedis du mois ou sur le site www.stand-arts.org et nous redécouvrir au 1er juillet pour une nouvelle émission.
Sur Radio Nord-Bretagne.
Merci à tous.
À tout bientôt.
Et portez-vous bien.